Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Marie-Claire Oumabadi. Journée spéciale aujourd'hui sur France Culture à l'occasion de la Nuit des idées. Quelles idées neuves pour 2020, l'occasion pour Culture Monde de se pencher sur un enjeu qui monte dans les relations internationales, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous propulsera-t-elle vers un nouvel ordre international? C'est la question qu'on va se poser ce matin.
Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, nous vivons une époque excitante et celle-ci porte d'ailleurs en elle d'incroyables promesses pour le futur. Mais vous savez, elle doit être utilisée de manière responsable et prudemment, comme l'exige toute autre technologie puissante. Nous devons donc nous assurer qu'elle soit utilisée pour le bénéfice de tous et que ces bénéfices profitent à chacun.
Les nations qui maîtriseront l'intelligence artificielle seront les puissances de demain. À l'inverse, celles qui négligeront cet enjeu déclineront inéluctablement. Et c'est pourquoi il faut toujours lutter contre la peur. Cette peur qui saisit des peuples à un moment sur la grande question de leur avenir.
L'intelligence artificielle est l'avenir non seulement de la Russie, mais de toute l'humanité. Les possibilités sont colossales et les menaces sont difficiles à pronostiquer aujourd'hui. Celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde. Et il est indésirable que ce monopole soit concentré dans des mains précises.
Dans l'ordre, Demis Hassabis, cofondateur et dirigeant de DeepMind, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, rachetée par Google en 2014. Et puis on entendait également François Hollande, c'était en 2017, ainsi que Vladimir Poutine. Santé connectée, éducation augmentée, mais également armes autonomes et surveillance de masse, les projections liées aux potentialités de l'intelligence artificielle excitent les appétits des puissances internationales qui voient un moyen de renforcer leur capacité d'action dans presque tous les domaines. Objet de fierté sur le plan civil, de fantasmes sur le plan militaire, ces nouvelles technologies sont au cœur d'une intense compétition entre les États-Unis et la Chine. D'un côté, les fameux GAFAM, de plus en plus indépendants de Washington, qui poursuivent leur rêve de puissance aux accents libertaires tout en restant les étendards de la primauté technologique américaine. De l'autre côté, les BATX, sous le contrôle attentif du Parti communiste chinois, passent lentement mais sûrement d'une volonté de rattrapage à un désir de dépassement de leurs rivaux. Et puis au milieu, les autres, la Russie, l'Europe ou encore la Corée du Sud, qui tentent de ne pas trop se laisser distancer. Alors quels sont les acquis réels de la Chine et des États-Unis en matière d'intelligence artificielle? Quelles sont leurs applications concrètes, notamment dans le domaine de la guerre? Comment se positionnent les autres puissances? Et dans quelle mesure les acteurs de cette course, à savoir les entreprises, remettent-ils aussi en cause la souveraineté des États? Cette intelligence artificielle va-t-elle nous propulser vers un nouvel ordre international? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Pour ce faire, nous avons invité trois personnes. Jean-Christophe Noël, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous avez notamment créé un rapport qui avait été publié en 2018 pour l'IFRI, Intelligence artificielle vers une nouvelle révolution militaire. Avec vous, on s'intéressera en particulier aux applications militaires. Juliette Faure, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes doctorante aux séries, diplômée du Master Relations Internationales de Sciences Po et Columbia University. Et vous avez notamment, vous, écrit un article sur le monde, sur le site, pardon, DiploWeb, intitulé « L'intelligence artificielle peut-elle nous gouverner ?» On verra avec vous ces questions de gouvernance. Charles Thibault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, et vous avez vous notamment publié un article dans la revue Pouvoir au pluriel, intitulé « La compétition mondiale de l'intelligence artificielle ». Décidément, j'ai un peu de mal ce matin. Pour commencer, peut-être une question que je vais vous proposer à tous les trois, parce que je ne vais pas chercher évidemment à minorer l'importance de l'intelligence artificielle dans les relations internationales, ça va être tout l'objet de notre émission ce matin. Mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même beaucoup d'autres éléments qui sont constitutifs de la puissance, les moyens militaires, la capacité nucléaire, l'accès aux ressources énergétiques, le commerce? Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec cette histoire d'intelligence artificielle? Je commence avec vous, Juliette Faure.
Oui. Alors, c'est vrai que, déjà, pour commencer, il faut se rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas un phénomène nouveau. Le concept apparaît dès les années 1950 et les premiers algorithmes sont créés peu de temps après. En fait, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est un accroissement de la puissance de ces algorithmes qui sont désormais dotés de capacités exceptionnelles de traitement d'informations, de données de masse et finalement de méthodes d'apprentissage, le deep learning, voire parfois d'autonomie de la décision. Cependant, il est vrai qu'il y a beaucoup de discours sur l'intelligence artificielle qui finalement relèvent un peu du fantasme, de la croyance ou de l'anticipation, notamment le concept de singularité, par exemple, qui se référerait en fait au moment où l'intelligence artificielle s'émanciperait de toute dépendance envers l'intelligence humaine qui l'a programmée et aurait atteint la capacité de fonctionner, de s'auto-créer en autonomie, c'est-à-dire qu'elle serait elle-même la source de son propre progrès. Mais en fait, c'est...
Vous avez parlé notamment Ray Kurzweil.
Voilà, beaucoup, exactement.
Le futurologue
américain. Mais c'est-à-dire que ces fantasmes mis à part, le développement de l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas beaucoup plus qu'une prolongation, qu'une radicalisation de techniques d'exploitation de données de masse et d'automatisation de la prise de décision.
Charles Thibault, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Vous avez entendu notamment Vladimir Poutine expliquer que celui qui sera leader dans le secteur... finalement dominera le monde. Est-ce qu'il n'en fait pas trop?
Vladimir Poutine, oui, enfin sans doute. Ce qui est assez intéressant avec lui, c'est qu'en fait, la Russie est un pays qui est extrêmement en retard, globalement, dans le domaine de l'intelligence artificielle, je veux dire. En retard par rapport aux deux grandes superpuissances du domaine que sont les États-Unis et la Chine. Je crois qu'en fait, Vladimir Poutine, il indique là une crainte réelle, hein, qui est motivée effectivement par ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire le fait que cette croyance dans la superpuissance de l'intelligence artificielle relève avant tout du fantasme. Et comme les décideurs politiques sont assez peu accoutumés aux faits techniques, hein, de l'intelligence artificielle, ils croient tous évidemment, effectivement, au fait que l'intelligence artificielle, c'est Skynet de Terminator, c'est HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et finalement, il projette dans ce répertoire de techniques des choses qui n'existent pas encore et qui peut-être n'existeront jamais.
Jean-Christophe Noël, votre avis là-dessus? Et puis je poursuis parce que Charles Thibault parlait de crainte. Depuis quand il y a cette crainte chez les responsables politiques? On se souvient de cette avance prise par les soviétiques avec le lancement de Spoutnik. On avait parlé, les historiens avaient parlé du moment Spoutnik ou même du Pearl Harbor technologique. Est-ce qu'il y a là aussi sur l'intelligence artificielle un moment particulier où nos responsables politiques ont compris qu'on avait là un enjeu absolument décisif pour le futur?
Alors, le fait d'évoquer le moment Spoutnik est très intéressant parce qu'effectivement, si vous allez aux États-Unis, vous rencontrez de nombreux chercheurs, de personnes qui s'intéressent donc à la chose politique, et ils parlent de moment Spoutnik, justement. Pourquoi moment Spoutnik? Parce que...
À propos de l'intelligence artificielle.
À propos de l'intelligence artificielle, tout à fait.
Et, c'est quoi ce moment Spoutnik?
Alors, leur crainte, en fait, c'est la Chine. C'est quand vous dites intelligence artificielle, 4-5 mois après, ça sera Chine, automatiquement. Mmh. Donc l'un et l'autre sont très associés.
Et à partir de quel moment on a réalisé que la Chine avait pris, en tout cas était en train de développer cette technologie au point qu'il fallait absolument ne pas se laisser justement distancer?
Alors si on regarde un petit peu l'histoire de la Chine et l'intelligence artificielle, en fait il y a vraiment un moment pivot, c'est-à-dire c'est le moment où il y a un logiciel qui s'appelle AlphaGo et qui va battre le champion du monde de Go.
C'est récent, c'était en 2015.
Tout à fait, qui va battre le champion du monde de Go, et qui va même, donc comme ça avait été fait avec Kasparov il y a 25 ans, qui va s'imposer et qui va montrer que finalement un logiciel est capable de battre un homme sur un terrain très particulier, très défini. AlphaGo est capable donc de battre un joueur de Go, mais il n'est pas capable de passer l'aspirateur, il n'est pas capable d'ouvrir une porte, etc. Donc il est très défini. Et ce qui frappe les Chinois, si vous voulez, c'est que le jeu de Go, c'est pas le jeu d'échecs pour eux. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus stratégique, qui va beaucoup plus loin. Il y a 10 puissance 172 possibilités au jeu de Go, plus que d'atomes dans l'univers. Et là, d'un coup, vous avez un algorithme, vous avez quelque chose qui est capable d'ordonner tout ça et de le battre. Vous pouvez imaginer un petit peu que le Go peut être associé à la stratégie. Là, effectivement, d'un coup, tous les fantasmes commencent à se réveiller, effectivement, et on peut imaginer le potentiel que ça. Les Chinois, à partir de ce moment-là, donc c'est un petit peu un réveil pour eux. On va dire que la population est assez impressionnée. Les hommes politiques s'en emparent. En 2017, donc, il y a l'énonciation de ce fameux plan, où c'est très simple, les Chinois disent que vers 2030, il faut que ce soit les premiers, la puissance dominante dans l'intelligence artificielle. Et ils vont y mettre les moyens financiers et qui vont bien.
On va regarder les moyens financiers. Charles Thibault, vous disiez c'est 2016 AlphaGo?
Oui, mars 2016.
Même question, est-ce que finalement on n'a pas tendance à réduire cette bataille de l'intelligence artificielle à ce duo Washington-Pékin. Est-ce que là aussi, on n'est pas en train de se laisser avoir par cette idée d'un retour de une forme de bipolarité, alors même qu'il existe quand même d'autres acteurs dans le domaine. Charles Thibault et puis ensuite Juliette Faure.
Bah, si on reste avec les lunettes de la théorie réaliste, c'est-à-dire les relations internationales en tant que relations purement interétatiques, oui, clairement, il y a un duopole mondial qui est en train de se mettre en place entre les États-Unis et la Chine, ça c'est tout à fait clair. L'Europe n'est pas du tout à la hauteur, la Corée du Sud, Israël sont encore bien loin derrière ces deux géants.
Par contre, sur la Chine et les États-Unis, on en est où? Est-ce qu'il y en a un qui est en avance? Est-ce qu'on est au coude à coude? On en est où?
Alors, historiquement, les États-Unis sont bien en avance. Ils ont commencé, la DARPA a commencé à investir massivement dans l'IA dès les années 62-63.
L'agence de recherche et développement américaine.
Ça s'appelait l'ARPA d'ailleurs, à l'époque. Et simplement, depuis 2016, effectivement, ça a commencé un petit peu avant, mais l'État et le Parti communiste s'est mis en ordre de bataille pour rattraper les États-Unis, avec cette idée bien précise, c'est que pour eux, ils sont convaincus que les États-Unis ont fondé leur prééminence dans les relations internationales grâce à leur supériorité technologique. Et ils considèrent aujourd'hui que la manière de rattraper ce retard, c'est effectivement de reprendre ce modèle qui a été le modèle américain jusque dans les années 80-90, qui a évolué depuis, on pourra peut-être en reparler, et l'intelligence artificielle est pour eux, effectivement, à la suite de cette victoire d'AlphaGo contre Lee Sedol, le joueur de Go coréen, c'est l'intelligence artificielle est peut-être le moyen de parvenir à reprendre cette suprématie mondiale. Et d'ailleurs, ça a été énoncé assez clairement par Xi Jinping en octobre 2017 lors du congrès national du Parti communiste, qui explique bien que d'ici 2049, soit pour le centenaire de l'avènement de la République populaire, la Chine devrait redevenir la première puissance mondiale, et notamment grâce à l'intelligence artificielle.
Juliette Faure, toujours sur quand on regarde ce duel Chine-États-Unis, pour l'instant on nous dit que les États-Unis restent devant, mais il y a des voix qui sont en train de nous expliquer que non seulement les Chinois sont en train de rattraper, mais même en train de dépasser dans certains domaines, par exemple la question de la reconnaissance faciale, la question du deep learning que vous avez évoqué tout à l'heure, notamment un chercheur allemand qui est directeur d'un centre d'intelligence artificielle en Allemagne, mais qui avait ouvert une antenne du côté de Pékin, et donc qui a parfaitement cette vision et cette capacité à comparer les choses, qui dit, attention, non seulement les Chinois ont rattrapé les États-Unis sur plein de domaines, mais ils sont même en avance sur les deux domaines, par exemple, que je viens d'évoquer, reconnaissance faciale et deep learning.
Oui, tout à fait. En fait, on voit finalement que, en termes d'intelligence artificielle ou de cyberespace, c'est quand même encore aujourd'hui les grandes puissances, la Chine, les États-Unis et récemment un peu la Russie, qui se sont saisies de l'enjeu de la souveraineté étatique dans cet espace qui, jusqu'à récemment, en fait, était déserté par la puissance étatique. C'est-à-dire que le cyberespace était un endroit où la souveraineté, la sécurité des États étaient mises en danger par des possibilités de cyberattaques sur des sites stratégiques ou militaires. Et en fait, c'est récemment la Chine, par exemple, en premier, qui a mis en place une loi en 2017 garantissant à l'État l'accès à toutes les données du web et qui était suivie dans cette initiative par la Russie avec récemment, en novembre dernier, l'adoption d'une loi sur l'Internet souverain. Mmh. Aux États-Unis aussi, le Cloud Act de 2018 a permis à la justice de demander l'accès aux données d'une entreprise partout dans le monde si elle liait aux activités américaines. Mmh. Et en fait, on voit ici qu'effectivement, ce sont ces grandes puissances qui ont réussi à se ressaisir de l'enjeu de la souveraineté et de la sécurité étatique sur le cyberespace qui, jusqu'à présent, représentait une menace pour la souveraineté des États.
Il y a un point où c'est encore très difficile pour la Chine, c'est d'attirer les talents. Là, les États-Unis restent encore très en avance. Les chercheurs, notamment européens ou même les chercheurs asiatiques, je pense aux chercheurs indiens, vont beaucoup plus du côté des États-Unis que de la Chine. Là, il y a une véritable avance. On continue d'attirer davantage du côté des États-Unis. Jean-Christophe Noël, on parlait tout à l'heure de bipolarité avec Charles Thibault. On a évidemment, bien sûr, quand on regarde l'histoire, une forme de bipolarité qui se met en place au moment de la guerre froide. Et puis, l'effondrement de l'URSS va nous projeter dans un nouveau monde multipolaire. Est-ce que ce duel technologique dont on est en train de parler, autour de l'intelligence artificielle, va nous replonger dans une forme de bipolarité?
En fait, c'est la grande
question. Puisque c'est aussi essentiel dans l'avenir des relations internationales. A priori, oui.
Alors, c'est la grande question actuelle, d'ailleurs, qui traverse beaucoup de technologies, pas seulement l'intelligence artificielle, ça peut être Internet. On avait l'habitude de vivre dans un cyberespace qui était unique. Et on s'aperçoit que bien certains pays, notamment autoritaires, comme la Chine et la Russie, n'y voient pas leur intérêt. À partir de ce moment, ils décident de recréer des frontières, en fait, alors que ce cyberespace était relativement libre. Donc, de recréer des frontières où, justement, ils peuvent, comme disait, comme on venait de dire, donc, des frontières, une certaine souveraineté à l'intérieur. Et donc, tout l'enjeu pour eux, ça va être d'asseoir cette souveraineté. Et notamment pour tout ce qui est intelligence artificielle, ça va être la maîtrise des données. parce que les données sont quelque chose qui sont évidemment essentiels pour que l'intelligence artificielle puisse se développer. Donc, trois éléments dans l'intelligence artificielle, évidemment les algorithmes, évidemment la puissance de calcul des ordinateurs, mais aussi ces données, parce qu'en fait on va utiliser plein de données, on va faire des statistiques à partir de ça, et on va trouver certaines régularités. Et à partir de là, quand vous trouvez ces régularités, d'un coup il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre à vous. En fait, il faut voir l'intelligence artificielle un petit peu comme l'arrivée de l'électricité, ou l'arrivée du moteur. C'est quelque chose qui peut être appliqué à une multitude de domaines. Je dirais un petit peu, la limite, c'est un peu l'imagination. Alors évidemment, on va être limité technologiquement, hein, on n'en est pas encore, comme on disait tout à l'heure, à une super intelligence. Mais à partir du moment où vous avez l'électricité, et vous l'appliquez dans l'hôpital, vous l'appliquez dans les casernes, vous l'appliquez à la maison de la radio, ça change tout.
J'entends bien, mais ça répond pas à ma question, qui est de savoir si l'intelligence artificielle va nous repousser vers la bipolarité.
Alors après, l'intelligence...
Est-ce qu'on le voit, par exemple, pardon de vous couper, dans les partenariats qui sont mis en place du côté des États-Unis ou du côté de la Chine? Est-ce qu'on est en train de reformer des logiques de bloc autour de cet enjeu de l'intelligence artificielle?
Je dirais que c'est un petit peu tôt pour le définir. Hein.
Charles Thibault.
Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement cette logique de bloc parce que les États-Unis et la Chine ont derrière eux, enfin derrière les administrations, un écosystème économique, industriel, technologique, universitaire qui est bien présent et qui est bien harnaché finalement aux appareils d'État. Simplement, en fait, ce modèle très très clair, très net, il s'applique aujourd'hui beaucoup plus à la Chine qu'aux États-Unis. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que la Chine copie le modèle américain, mais celui qui a duré jusqu'aux années 80-90. Un modèle qui est assez étatiste, en fait. Hein. Aujourd'hui, les États-Unis ont changé de modèle. Ils sont dans un modèle néolibéral qui n'est plus justement de contraindre les entreprises, les universités à agir dans un sens particulier, mais alors laisser beaucoup de marge de manœuvre et en fait essayer plutôt de les inciter à agir dans tel ou tel autre sens. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on voit que des acteurs technologiques majeurs américains sont en train, me semble-t-il, de s'émanciper progressivement de l'appareil d'État américain. Je pense à Google, Facebook, Apple, Microsoft, qui investissent en Chine, qui n'hésitent pas en fait à travailler sur des sujets de formation, de recherche en intelligence artificielle aux côtés des pouvoirs publics chinois, et ils sont même accusés par certaines grandes figures de la tech américaine de coopérer avec l'armée chinoise pour transférer des technologies d'intelligence artificielle.
Juliette Faure, ça c'est une vraie nouveauté, parce que cette émancipation justement des acteurs de l'intelligence artificielle du côté américain fait que nous voilà avec de nouveaux acteurs géopolitiques en réalité, et des nouveaux acteurs non étatiques.
Oui, tout à fait. Et en fait, on voit que justement, s'il y a une bipolarité qui s'installe entre la Chine et les États-Unis sur la question de l'intelligence artificielle, c'est aussi parce qu'ils ont leur grand géant du numérique, avec un accès à des espaces de données qui sont les seuls capables d'exploiter. Aux États-Unis, par exemple, on a vu récemment en novembre que Google a signé un accord avec un gros groupe de santé américain pour exploiter les données de tous ses sites de soins, dont 150 hôpitaux, par le Google Cloud, dans le but de développer, grâce à l'intelligence artificielle, des outils d'aide à la décision pour les médecins. Et en fait, ce que cela veut dire, c'est non seulement déjà un enjeu, évidemment, de protection de la vie privée et des données personnelles, qui est mise en danger, mais aussi, finalement, un accroissement de la puissance des grands groupes du numérique dans leur accès à une connaissance du corps social, de la population, qui excède largement celle des États.
Mais est-ce que, Juliette Faure, ces acteurs privés du numérique américain suivent seulement le maître dollar, le profit, ou est-ce qu'ils ont quand même conscience qu'il y a là des enjeux géopolitiques et que donc il faut aussi préserver l'intérêt des États-Unis?
Je pense...
Ce qui pose aussi la question du rapport entre ces acteurs et l'administration américaine et peut-être les liens de domination de l'un envers l'autre, sachant que c'est peut-être pas justement le rapport qu'on attend.
Tout à fait, mais je pense que l'État américain a quand même la souveraineté de l'État américain a encore prééminence sur ces grands groupes du numérique, comme on a pu le voir avec, encore une fois, cette loi qui a été adoptée en 2018, le Cloud Act, qui permet en fait à l'État américain de pouvoir accéder à toutes les données des entreprises qui sont liées à des activités américaines. Donc on voit ici que finalement le principe de souveraineté étatique demeure dominant et en fait prééminent par rapport à la puissance des groupes
Charles Thibault, et puis ensuite Jean-Christophe Noël. Charles Thibault, vous avez levé la main.
Oui, je suis d'accord, mais je nuancerai juste un tout petit peu, parce que pour moi, il me semble en fait que la séparation stricte entre l'État américain et ses grands groupes technologiques est de plus en plus poreuse. C'est-à-dire qu'en fait, de grandes personnalités de la tech américaine sont aujourd'hui partie intégrante du processus décisionnel en matière de politique publique, industrielle, technologique américaine.
Exemple,
Eric Schmidt, par exemple, qui est à la
tête... Ancien patron de Google.
Ancien patron de Google, qui est toujours conseiller technique et membre du CA d'Alphabet. Alphabet, hein, la maison mère de Google, et qui dirige depuis 2016 le Defense Innovation Advisory Board, c'est-à-dire en fait un organe consultatif du Pentagone, ouais. Où il est chargé notamment, eh bien, d'organiser l'innovation organisationnelle et technologique du Pentagone.
Oui, mais comment je l'interprète ? Est-ce que ça veut dire que les GAFAM, les acteurs privés, sont en train de prendre la main, j'allais dire, sur l'appareil fédéral américain ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? C'est-à-dire que c'est l'appareil fédéral américain qui est en réalité en train d'aspirer un peu, justement, ces grands dirigeants qui font l'intelligence artificielle pour qu'ils se mettent à leur service ?
Oui, je crois que c'est votre première option. En fait, je crois qu'il y a quelque chose d'assez trotskiste ou lambertiste chez ces GAFAM, parce qu'en fait ils ont une stratégie entriste dans l'appareil américain pour essayer d'avoir le maximum d'influence possible.
Jean-Christophe Noël.
En fait, on est face à un nouveau type d'innovation, c'est-à-dire que l'innovation, notamment dans tout ce qui est le domaine de sécurité ou stratégique, avant venait de l'État, parce que c'était des grands projets, donc il fallait de l'argent, il fallait des ingénieurs, etc. Par exemple, construire une bombe atomique. Aujourd'hui, l'innovation, elle est vraiment au niveau des entreprises, dans les start-up, etc. Et le grand défi pour toutes ces puissances, c'est de savoir comment on va capter cette innovation et comment on va pouvoir se l'approprier, justement, pour développer des choses qui satisfassent à la souveraineté. Donc, vous avez deux modèles aujourd'hui. Vous avez le modèle chinois, où effectivement, on laisse un petit peu la bride au privé, mais jusqu'à un certain point. Le parti est là, et à partir du moment où il y a un enjeu pour le parti, il va s'en saisir, parfois de manière très, très brutale. Vous avez le domaine américain, effectivement, où c'est un peu plus, du laisser-faire, etc. Il faut savoir que l'État aujourd'hui américain est très, très, très intéressé par ce qui se passe dans les entreprises, et c'est évidemment de raccorder, de raffermir les liens. Alors, vous faisiez allusion à cette espèce du fait que les GAFAM sont en train de s'imposer. Il faut savoir que, juste un contre-exemple peut-être, récemment, donc l'armée américaine a cherché à créer un grand cloud dans lequel elle mettrait énormément de données qu'elle puisse exploiter pour mieux se connaître. Et donc, il y a eu un marché qui a été proposé et c'était Amazon qui devait le remporter, Jeff Bezos. Alors, les relations entre Jeff Bezos et...
Trump sont pas très bonnes.
Non, et bizarrement, le marché, finalement, ne lui a pas été attribué. Il est passé chez Microsoft. Donc, on voit que, malgré tout, l'État reste toujours capable d'avoir des moyens de rétorsion.
Je vais vous faire... Vous vouliez intervenir, Juliette Faure ? Je vais vous faire, évidemment, décrire un peu les perspectives possibles en matière d'application militaire. Mais vous avez parlé à l'instant du nucléaire, Jean-Christophe Noël. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, l'intelligence artificielle a pénétré le monde nucléaire ?
Alors le monde nucléaire militaire, en fait, c'est un grand tabou. Aujourd'hui, c'est non. Enfin, c'est non, clairement pour.
Vous n'avez pas l'air sûr.
Non, c'est pas ça. On va parler de certains. Non, parce que effectivement, il y a certaines personnes qui ont écrit des textes dans lesquels ils disaient, écoutez, si on mettait l'intelligence artificielle dans le nucléaire, finalement, ça serait beaucoup mieux parce que ça nous permettrait d'être beaucoup plus efficaces. Simplement, le nucléaire, si vous voulez, c'est vraiment l'arme ultime. Et c'est, beaucoup de gens disent au contraire, elle ne doit surtout pas être brouillée par l'utilisation de certains automatismes, mais elle doit rester complètement à la main du politique. Complètement à la main du politique du début à la fin. Et donc, il ne faut pas avoir d'intervention extra-humaine là-dedans.
Donc, j'entends les questionnements éthiques. Mais
c'est pas simplement éthique, c'est aussi opérationnel.
Mais est-ce que l'intelligence artificielle a pénétré cette technologie ?
Alors justement,
je me souviens par exemple, d'un Vladimir Poutine expliquant qu'ils étaient sur le point de mettre au point, ou peut-être l'avait déjà-t-il fait, un sous-marin nucléaire autonome.
Tout à fait, c'est ce qui explique un petit peu mon hésitation. Là, on rentre dans une stratégie nucléaire. L'idée, c'est de dire, si vous m'attaquez, je riposterai. Donc vous n'avez aucun intérêt à m'attaquer, parce que de toute façon, vous serez détruits aussi. Et les Russes, qui peut-être n'ont pas la même avancée technologique dans tout ce qui est nucléaire, ont intérêt à dire, écoutez, si jamais nous on est attaqués, si jamais vous arrivez à détruire nos chaînes de commandement, si pour des raisons ou pour d'autres, et ben d'un point de vue humain, on n'était pas capable de réagir, ben sachez qu'une machine le fera. Donc si vous attaquez, dans tous les cas, vous allez perdre. Et donc l'idée, c'est de créer le doute dans l'adversaire et peut-être de l'empêcher d'avoir cette manœuvre nucléaire. Mais par exemple, pour des pays comme la France, aujourd'hui, il est hors de question d'introduire de l'intelligence artificielle, je dirais, à grande dose, dans cette espèce de grand objet nucléaire, parce que tout simplement, ça pervertirait l'esprit du nucléaire tel qu'on le voit aujourd'hui dans l'armée française et dans l'État français.
Charles Thibault et ensuite Juliette Faure.
Oui, non, pas grand-chose à ajouter, je souscris.
Alors peut-être vous pouvez nous éclairer sur ce que sont aujourd'hui les ambitions et les moyens mis sur la table par la Russie concernant l'intelligence artificielle.
C'est compliqué, si on regarde les chiffres, je crois, les derniers que j'ai vus publiés, c'était 12 millions de dollars C'était en l'année 2018, 12 millions de dollars dans l'intelligence artificielle, bon, dans le développement de l'IA, ce qui est en fait assez fort peu si on les compare avec ce que font les États-Unis ou la Chine. Le projet chinois, le plan chinois, c'est 20 milliards de dollars d'ici cette année, là, d'ici la fin de l'année, par an, 60 milliards d'ici 2025, et en fait, d'après le renseignement militaire américain, dès cette année, en fait, on devrait dépasser les 70 milliards de dollars investis dans l'IA en Chine, et les États-Unis, eux, sont autour de 4 milliards de dollars. Donc en fait, la Russie a des moyens normalement. Bon, c'est toujours très compliqué de le savoir, mais elle a des moyens quand même assez faibles. Par contre, elle fait preuve d'une propagande technologique qui est assez étonnante, assez édifiante, et notamment avec toutes ces nouvelles armes dont elle fait la promotion. Dès 2017, on avait ces exemples de mini-chars autonomes conçus par Kalachnikov qui auraient réalisé des tests avec succès dans les plaines de Biélorussie. Bon, il y a quelque chose d'assez romanesque là-dedans, ou pas. Et effectivement, ce dont vous parliez, c'est le Status 6 Poséidon, qui est une espèce de sous-marin nucléaire autonome gigantesque avec une portée de 10 000 km, je crois, une charge de 100 mégatonnes, une charge de cobalt 60 aussi, qui, si elle explosait, tuerait toute espèce vivante dans un rayon de 100 km. Bon. C'est extrêmement difficile de savoir où ça en est. Est-ce que c'est de la propagande technologique ou est-ce qu'ils sont véritablement en train de développer, voire de produire de telles armes? Difficile à dire.
Juliette Faure, est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir l'intelligence artificielle arriver justement dans le nucléaire ou dans les armements de façon générale, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de peut-être rassurant d'une certaine manière, un code, un algorithme, on sait ce qu'il est censé faire, c'est une bête froide et objective, alors que l'humain c'est ô combien bien sûr subjectif, défaillant. Est-ce que c'est pas rassurant d'une certaine manière de voir le code pénétrer comme ça? Le militaire et le nucléaire en particulier. Je connais la réponse, hein, vous allez me donner.
Oui, non, je pense qu'évidemment, c'est beaucoup plus inquiétant que rassurant. Et ça pose beaucoup de problèmes, non seulement éthiques, mais aussi opérationnels, effectivement, comme on le rappelait. Parce que si on pense, par exemple, au système d'armement létal autonome, qui serait finalement une arme capable de cibler et de déclencher une opération, une exécution en prenant la décision par soi-même, il y a un problème légal en fait d'attribution de la responsabilité de cet acte et d'adéquation avec le droit international humanitaire qui existe aujourd'hui et l'éthique de la guerre qui est fondée sur un principe quand même de responsabilité de prise de la décision. Donc effectivement, ça pose un problème qui invite finalement les États à ouvrir de nouvelles discussions sur le sujet de l'intelligence artificielle dans son utilisation militaire. Et en ce sens-là, en fait, le cyberespace pourrait devenir finalement un nouveau nucléaire, dans le sens une nouvelle invitation à fonder un ordre international, tel qu'on l'a vu avec les accords sur le nucléaire conclus pendant la guerre froide.
On reviendra sur cette question de la gouvernance et de l'encadrement de tout cela, mais je ne pensais pas forcément à cela, je pensais peut-être au fait que les machines aussi peuvent être défaillantes, et vous citez deux exemples très particuliers dans l'article auquel je faisais référence tout à l'heure, 1962 évidemment la crise des missiles, et puis 1983, d'abord côté américain, de l'autre côté soviétique, où là les machines ont été défaillantes, et on a été bien content que l'humain rentre dans la chaîne de décision. Vous nous rappelez ces deux événements?
Oui, voilà. Alors en fait, tout à fait, c'est deux événements pendant la guerre froide qui montrent que des deux côtés de la bipolarité, il y a eu des exemples en fait où il y a eu des signalements d'attaques imminentes par missiles nucléaires. Et en fait, c'est l'intervention des hommes contre cet ordre, cette injonction de la machine, qui a permis de sauver une déflagration nucléaire parce qu'ils se sont rendus compte que c'était en fait une erreur de calcul, une erreur technique. Et en fait, je dirais peut-être que il y a à la fois effectivement un problème dans l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle, mais aussi de manière beaucoup plus courante dans notre vie, de l'application commerciale qu'on en trouve à la fois dans la justice, dans la médecine, où en fait, la machine, avec tout ce qu'on lui attribue d'objectivité, d'expertise, de neutralité, aboutit finalement à une démission de la part de l'homme, de sa prise de décision, de son autonomie morale et politique, de soi-même faire des choix. Et en ce sens-là, effectivement, on peut s'inquiéter du fait que en justice ou en médecine, on ait de plus en plus recours à l'intelligence artificielle dans l'aide à la prise de décision, qui aboutit en fait pour l'homme à une sorte de démission de ses facultés face à la perfection qu'incarne la machine. Et donc, je dirais que c'est même pas forcément juste une question militaire, c'est aussi une question dans notre vie courante, en fait.
On était avec vous, Juliette Faure, Charles Thibault, Jean-Christophe Noël, dans cette journée spéciale Nuit des idées consacrée aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Peut-être va-t-elle nous propulser vers un nouvel ordre international? C'est la question qu'on se pose ce matin. Vous écoutez France Culture, 11h, presque 30 minutes.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Tony, what the hell is going on?
Daddy!
Kitty, what are you doing here?
She'll be back.
We have to shut down Skynet. Where's the system core? Somewhere in this building?
Skynet, the virus has infected Skynet.
Skynet is the virus. It's the reason everything's falling apart.
Skynet has become self-aware. In 1 hour, it will initiate a massive nuclear attack on its enemy.
What enemy?
Us! Humans!
Évidemment, vous avez tous reconnu la revanche des machines Terminator 3. Oui, la question, évidemment, des enjeux qu'on évoque ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais en tout cas, vous en avez forcément entendu parler. Oui, me fait Jean-Christophe Noël. C'est tombé bien parce que c'est à vous, justement, que je vais donner la parole tout de suite. Vous avez fait donc ce rapport, je le disais tout à l'heure, sur la question de savoir si l'intelligence artificielle nous propulsera vers une révolution militaire. C'est la formule que vous utilisez. Vous dites dans l'introduction de votre rapport que l'intelligence artificielle dite forte pourrait transformer la nature même de la guerre. Alors il va falloir nous expliquer ce qu'est cette intelligence artificielle forte. Et puis ensuite on va regarder ce qu'on peut avoir dans le paysage des potentialités. Il y a notamment une commission qui avait eu lieu en 2018, une commission de la Chambre des représentants où le sous-secrétaire américain de la Défense avait exposé un certain nombre de projets qui nous permettaient justement de bien sentir quelles étaient ces potentialités. D'abord sur l'intelligence artificielle forte, Jean-Christophe Noël, de quoi parle-t-on et pourquoi ça change la conflictualité? Pourquoi ça change la nature de la guerre?
Alors, l'intelligence artificielle forte, on l'a évoqué au début, elle n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est une extrapolation de ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire si on était sur une courbe un petit peu rectiligne, et puis que le progrès était continu, etc. Peut-être qu'un jour, effectivement, on peut avoir une intelligence artificielle qui soit capable de faire plusieurs choses, qui soit capable de prendre une telle masse de données, de l'interpréter, et peut-être d'en tirer des conclusions, de telle sorte que ça puisse aiguiller, voire orienter nos décisions. Mais encore une fois, elle n'existe pas aujourd'hui. Quand vous parlez d'intelligence artificielle et de militaire, si on prend par exemple l'exemple de l'armée de l'air américaine, les projets qu'ils sont en train de développer aujourd'hui, c'est des projets pour améliorer la maintenance. C'est simplement, voilà. On regarde un petit peu comme les pressions des moteurs, les températures, etc. Et on regarde quand est-ce qu'elle s'écarte des paramètres nominaux. On se dit, ah tiens, il y a une panne, il faut intervenir. Ça peut être du cyber, si on va regarder un petit peu les flux de données qui sont en train de traverser les réseaux, et puis d'un coup, quand on s'aperçoit que c'est pas comme d'habitude, ça veut peut-être dire qu'il y a une intrusion. Voilà. Et là, on peut commencer à réagir. Donc, vous voyez, on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle forte. Où ça devient plus intéressant, mais c'est toujours pas de l'intelligence artificielle forte, si vous voulez, c'est la gestion de la masse de données énorme qui aujourd'hui est recueillie par tous les capteurs américains sur le champ de bataille. On a un exemple en 2011, c'est-à-dire il y a 10 ans. Si vous preniez tout ce qui avait été accumulé par les capteurs américains sur les différents champs de bataille, il aurait fallu par opérateur américain de drone 37 années pour les exploiter. 37 années. Donc c'est quelque chose qui est impossible. Et vous avez besoin de la machine pour vous aider. Le problème, c'est que donc, vous allez dire à la machine, écoutez, moi voilà, j'ai certains objets qui m'intéressent plus que d'autres, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc cette machine va vous aider, elle va le faire bien, elle va vous présenter donc ses solutions. Est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ça dépendra un petit peu de la qualité de vos algorithmes, etc.
Mais ensuite, ce sera à l'humain de choisir.
Aujourd'hui, c'est à l'humain de choisir. En fait,
ces algorithmes sont d'ores et déjà utilisés.
Alors, vous avez le projet Maven, qui a fait beaucoup de bruit, justement. Ça revient un petit peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est qu'en fait, le problème du Pentagone, c'est-à-dire, voilà, l'intelligence artificielle arrive, maintenant, il va falloir savoir comment ça fonctionne. Et on va prendre un projet qui s'appelle donc Maven, et on va le développer, on va montrer à tout le monde que ça fonctionne et que c'est utile. On va aller voir donc les compagnies civiles qui sont compétentes. On est notamment allé voir Google. Et là, les problèmes ont commencé. Google a dit, mais attendez, là, vous êtes en train de nous demander de faire un programme justement pour reconnaître, pour rechercher les choses sur le champ de bataille et vous ramener les informations. Mais quoi si c'est un homme? Quoi si c'est une personne que vous voulez justement commencer à un petit peu approcher, à étudier, pour éventuellement la tuer après. Nous, on n'est pas d'accord. Et donc, voilà. Donc, il a fallu retrouver d'autres personnes ailleurs que Gogol, etc.
Google a refusé.
Non, une partie des gens de Gogol, en fait. C'est pas Gogol, c'est pas.
Je vais vous donner la parole, cher Thibault. J'ai vu que vous vouliez réagir. Je vous en prie.
C'est pas Gogol en tant que tel. C'est, de toute façon, ce sont les employés de Gogol qui, nous, on ne veut pas s'associer à ça. Uh-huh. Voilà. Donc. Ce projet Maven, est en train d'être développé aujourd'hui avec des difficultés, mais en même temps, il avance tout doucement. Et aujourd'hui, donc, les Américains, ce que les Américains cherchent à faire, c'est de savoir justement trier toute cette masse de données pour retirer ce qui est important pour eux.
Et c'est là qu'on voit d'ailleurs apparaître l'avantage possible pour la Chine, c'est-à-dire qu'en Chine, on ne refuserait pas une demande qui viendrait de Pékin sur cet exemple, Charles Thibault.
En tout cas, légalement, en Chine, c'est impossible. Vous êtes le droit des sociétés, les statuts du Parti communiste, tout vous oblige finalement à respecter les ordres et à obéir aux ordres du Parti communiste et de ses différentes structures. J'acquiesçais en fait totalement à ce que dit Jean-Christophe Noël. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement la direction de Google a tout à fait accepté en fait de travailler avec le Pentagone depuis 2017, sans aucun problème. D'ailleurs, un projet porté par le secrétaire adjoint à la défense Robert Work, qui est un proche d'Eric Schmidt, qui travaille ensemble aujourd'hui à la tête de la commission de sécurité nationale sur l'intelligence artificielle. Et en fait, ce sont des employés de Google qui se sont insurgés en se rendant compte de cet accord et qui ont balancé dans la presse finalement, et qui ont révélé dans la presse cet accord. En deux mots simplement, c'est qu'il y a toujours une sorte de hiatus éthique en fait entre les projets technologiques des firmes et les intentions des États. En mai-juin 2018, donc après ce scandale, Google publie une charte éthique, notamment où l'IA ne doit pas servir à opprimer les populations, à tuer, etc. Et pas de chance, c'est que en août, The Intercept révèle une autre affaire, c'est celle de Dragonfly, qui est en fait un moteur de recherche spécialement conçu pour la Chine, pour respecter les cadres de la censure du Parti communiste. Et donc, il y a toujours ce problème. Effectivement, éternel entre les impératifs éthiques et finalement les besoins économiques et stratégiques des États et des entreprises.
Juliette Faure.
Alors effectivement, je pense que cet exemple de l'opposition des employés...
Bien devant le micro aussi.
Pardon.
Parfait.
Des employés de Google révèle en fait que l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est pas simplement une compétition entre grandes puissances, une course à la puissance technologique, c'est aussi un enjeu, en tout cas pour les États qui se revendiquent des fondements normatifs de la démocratie libérale, un enjeu en fait de gouvernance de la société en soi. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus que le progrès technologique, l'intelligence artificielle, provoque une polarisation assez marqué entre d'un côté les enthousiastes de la technologie et de l'autre ceux qui au contraire formulent une critique culturelle voire morale de la technologie et qui appellent en fait un retour à l'organique, au biologique, au naturel. Et en fait cette polarisation entre les techno-optimistes et les bioconservateurs, pour le dire rapidement, effectivement se produit dans le cadre d'une démocratie libérale et en fait vis-à-vis de cet enjeu-là, effectivement la Chine a un avantage, c'est-à-dire que moins d'opposition de sa population.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est aussi le fait que les performances des codes, des algorithmes, remettent en question la légitimité des États à nous gouverner, nous. C'est aussi de ça dont il est question.
Voilà, c'est-à-dire que pour un État libéral qui se revendique quand même justement des fondements normatifs de la démocratie, de l'humanisme véhiculé par la philosophie des Lumières, etc., il y a un problème quand même d'application de plus en plus régulière et invasive quelque part dans notre vie de cette gouvernementalité algorithmique. C'est un terme qui a été conçu par la chercheuse Antoinette Rouvroy et qui effectivement est une gouvernementalité assez autoritaire, c'est-à-dire que le code est difficilement contestable par l'humain. En fait, l'humain est devenu une donnée intégrée par la machine et en fait le rapport entre l'homme et la machine s'est inversé pratiquement, c'est-à-dire que c'est la machine qui prend la décision à partir de données fournies par les hommes. Et donc, effectivement, sur ces enjeux-là, il y a des enjeux éthiques, sociaux, fondamentaux, qui représentent une menace aussi en termes d'équilibre social pour les États.
Jean-Christophe Noël.
Oui, je souscris tout à fait à ce que dit Juliette. C'est-à-dire, effectivement, l'homme est en train de devenir une donnée numérique. Et à partir du moment où c'est une donnée numérique, on commence à avoir plus d'informations sur lui, on peut commencer à prévoir des choses, etc. Il y a un concept qui est en train de se développer qui est très intéressant, c'est celui de l'identité numérique. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quelque chose qui est... Est-ce que vous êtes défini par ce que vous avez fait avant? Si on le supprime, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre identité numérique d'un coup? Est-ce que vous n'existez plus? Vous avez une existence physique, mais vous n'avez plus d'existence numérique. Est-ce qu'on peut on peut tricher, évidemment. Je peux rajouter des données, je peux en retirer, etc. Donc je peux complètement l'altérer. Et on voit bien donc qu'il y a une espèce de double de vous numérique et complètement autre. Mmh. Mais enfin, d'un point de vue, je dirais, politique, en fait, la grande inquiétude des Américains, c'est de savoir si est-ce que leur modèle, tout simplement, leur modèle politique va survivre à cette arrivée de l'intelligence artificielle, à ce que va proposer la Chine. Ils ont parfois la sensation que, si vous voulez, cette intelligence artificielle telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, donne un avantage au régime autoritaire, à travers justement un petit peu tout ce qui est surveillance, à travers tout ce qui est reconnaissance faciale, etc. Et leur grande angoisse, c'est de se dire, mais est-ce que finalement on est bien armé, et comment on va pouvoir réagir là-dessus? Est-ce que c'est d'un point de vue technologique, est-ce que nos valeurs ne sont pas en danger? Et à travers nos valeurs, est-ce que c'est notre existence même qui n'est pas en danger?
On va se pencher encore plus en profondeur sur cette question de la gouvernance pour cette intelligence artificielle. On va retrouver par téléphone Julien Nocetti. Bonjour Julien Nocetti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant à l'école Saint-Cyr et puis chercheur associé à l'IFRI. Vous êtes un spécialiste de la Russie, de la diplomatie numérique et vous aviez écrit un rapport assez récent en novembre 2019 intitulé, je cite, « Intelligence artificielle et politique internationale, les impacts d'une rupture technologique ». Il y a quelques temps, c'était en 2017, vous aviez signé une tribune dans Le Monde alors que le président Macron venait de confier au député et mathématicien Cédric Villani une mission d'information sur l'intelligence artificielle et vous posiez la question de savoir comment réguler l'intelligence artificielle compte tenu des conséquences géopolitiques mais aussi politiques liées à la démocratie qu'on évoquait tout de suite. Comment réguler tout cela ? Alors, on peut comprendre, bien sûr, Julien Nocetti, que pour nous autres, pauvres citoyens, eh bien, il soit tout à fait préférable de réguler ce secteur dont les répercussions sont évidemment colossales et potentiellement dramatiques. Mais pourquoi les États accepteraient de s'engager sur le chemin de la régulation? Et au fond, en quoi une non-régulation serait problématique pour des pays comme les États-Unis, la Chine ou même l'Europe, Julien Nocetti?
Alors, en fait, vous avez employé deux termes, gouvernance et régulation, qui traduisent bien la complexité des débats et des enjeux, en fait, à l'œuvre, en particulier dans l'intelligence artificielle. Les anglo-saxons parlent traditionnellement de gouvernance, on parlait il y a quelques années notamment de gouvernance mondiale de l'Internet, avec l'idée d'accompagner, si vous voulez, différents acteurs, des États, de la société civile, les entreprises, vers une forme de co-régulation, si vous voulez, sans contrainte. Alors que l'idée peut-être plus européenne de régulation, elle vise à agir par la loi, donc avec une idée de contrainte. Et là, l'exemple le plus flagrant, le plus connu, c'est celui du RGPD, du Règlement Général sur la Protection des Données, qui avait été adopté par la Commission européenne au printemps 2018. Donc, il y a déjà, dès le départ, une sorte de tension, de friction, entre guillemets, entre ces différentes lectures, hein, ces différentes conceptions d'une gouvernance, de ce qu'on pourrait dire une gouvernance de l'intelligence artificielle. Mmh. Il faut aussi avoir à l'esprit que les enjeux sont pas non plus uniques, hein, c'est ce que je trouvais déjà il y a quelques années. Il y a des différents, l'intelligence artificielle n'est pas une seule technologie, c'est une myriade de technologies qui ont des applications très diverses et très concrètes. Mmh. Et là, forcément, il y a différentes réponses, différentes formes de gouvernance ou de régulation à apporter quand il s'agit de gérer la quantité toujours plus croissante de données, hein, donc automatisées par des IA qui vont transiter par des serveurs, par des câbles, etc., ce qui posera des questions très concrètes d'infrastructure. Il y aura évidemment aussi des réponses à apporter en matière de biais algorithmique, donc c'est avec l'idée de les certifier. Ça pose des questions techniques évidemment, mais aussi très politiques, voire philosophiques. Donc tout ça pour dire que tous ces enjeux de gouvernance regroupés dans le champ de l'intelligence artificielle sont éminemment complexes et font intervenir, comme Jean-Christophe le rappelait tout à l'heure, des enjeux de puissance, hein, entre des approches notamment américaines et chinoises qui sont très construites depuis des années.
C'est un champ qui est extrêmement vaste, extrêmement divers, et c'est ce qui vous est dit notamment dans votre rapport, qu'il n'y aura pas de gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, mais qu'il y aura une gouvernance plurielle. Mais est-ce qu'on peut justement dire qu'aujourd'hui on avance sur cette gouvernance plurielle? Si on regarde l'actualité, on a vu que récemment Paris et Ottawa ont lancé un partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, c'était en octobre 2019. Et vous dites que c'est là une esquisse de gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on peut en attendre?
Alors c'est un début de gouvernance effectivement. Donc là c'est les gouvernements français et canadiens qui ont été à l'initiative d'un texte hein, qu'on a appelé la Déclaration de Montréal pour un développement responsable hein, de mémoire de l'intelligence artificielle, donc qui avait été discuté âprement hein, entre partenaires français et canadiens, avec l'objectif là aussi de pouvoir peser sur les débats en cours en matière de gouvernance de l'IA. Donc avec peut-être cette spécificité européenne, j'ai inclus le Canada, de mettre l'accent sur l'éthique de l'IA. Bon, on peut très bien aussi nuancer hein, cette importance accordée à l'éthique, hein, qui est peut-être aussi aujourd'hui devenu un mot fourre-tout. On parle beaucoup d'éthique des données, notamment, etc. Donc il y a peut-être aussi une forme d'absence de consensus politique entre Européens et de mise en avant de l'éthique, hein, seul terme qui au fond fait peut-être consensus, mais l'idée derrière ce texte, hein, ce document canado-européen était bien d'aboutir à un début de gouvernance en essayant de faire apparaître l'Union européenne sur la carte mondiale hein, de l'IA. Forcément, pour partir de très loin, compte tenu aussi du retard européen en matière de gouvernance du numérique, hein, beaucoup plus large depuis des années.
Et est-ce qu'on a des initiatives au niveau international, au niveau onusien par exemple, est-ce qu'il existe des initiatives pour tenter de réguler l'intelligence artificielle, en tout cas certains de ces champs?
Alors, au sein de l'ONU, il faut bien distinguer en fait les sujets traités de l'IA. Jusqu'à présent, les débats se sont surtout concentrés sur les enjeux sécuritaires de l'IA, et notamment la question des armements autonomes et de la régulation de ce qu'on appelle souvent hein, dans le champ médiatique les robots tueurs. Bon, bref. Ces négociations ont été et sont toujours très très tendues, très 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 âpres, avec des divergences de fond entre d'un côté européen et de l'autre américain, russe et chinois, qui eux militent pour une automatisation des champs de bataille, donc évidemment avec des implications très 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 concrètes sur le terrain. Ça, les Européens aujourd'hui refusent, avec quelques petites nuances qui peuvent apparaître ici et là, mais refusent cette évolution à terme de l'art de la guerre. D'un autre côté, il y a aussi des débats au sein plus civils, plus commerciaux en matière de normes et de standards, et ça passe avant tout par lutter l'Union internationale des télécommunications, où là, la Chine est peut-être le pays le plus actif en matière de propositions, voire d'imposition de normes et de standards. Et ça, dans l'intelligence artificielle, c'est un domaine absolument fondamental. Et le pays qui à terme peut imposer ses propres technologies, au fond, ses propres normes, donc aussi ses valeurs hein, derrière ça, sera la puissance qui aura une forme de leadership.
On va faire réagir nos deux invités, Jean-Christophe Noël et Charles Thibault, parce que vous voulez réagir, hein, vous avez tous les deux l'un et l'autre levé la main. On voit qu'il y a cette Europe qui choisit cette voie médiane entre l'autorégulation, et je mets des guillemets, privilégiée par les entreprises américaines, et puis disons le centralisme un peu autoritaire du côté de la Chine. Est-ce que cette voie médiane, elle ne risque pas de nous faire perdre la course purement technologique, Charles Thibault?
Mais le problème de l'Europe, je crois qu'il faut le dire peut-être une fois pour toutes, c'est que c'est pas un pays, c'est que c'est une institution intergouvernementale où les grandes décisions se prennent à l'unanimité. Pour qu'une décision efficace se prenne à l'unanimité, il faut que vous ayez donc 27 ou 28 pays, c'est selon, avec des intérêts communs. Le problème de l'Union européenne, c'est que les pays ont des intérêts divergents. Et notamment en termes de ce qu'on appelle la souveraineté, et la souveraineté numérique en particulier. Vous pouvez pas comparer un pays comme la France avec la Suède, qui est un pays atlantiste et extrêmement proche des États-Unis, ou avec la Hongrie, qui est de plus en plus proche de la Chine et de la Russie, etc. Donc tant qu'on n'arrivera pas, à faire émerger un intérêt commun, un intérêt général au niveau de l'Union européenne, en particulier sur cette question d'intelligence artificielle, on ne pourra pas avoir de politique générale efficace dans ce domaine.
Et donc on ne sera jamais à la hauteur.
On ne sera jamais à la hauteur et on se contentera finalement de réduire le débat ou la question de notre stratégie à des points éthiques.
Jean-Christophe Noël, est-ce que la nature même de l'organisation européenne nous empêche justement d'avoir un rôle, un espace dans cette bataille de l'intelligence artificielle? Je crois qu'il y a un domaine notamment où les Européens sont pas mauvaise, c'est le deep learning justement que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est d'ailleurs assez peut-être étonnant de voir qu'on est en pointe dans ce sujet-là, alors même qu'on est incapable effectivement, globalement, hein, il y a effectivement, je sais bien qu'il y a un plan de la Commission qui vise à développer tout ça, mais il est quand même pas très gros, et quand on regarde les budgets européens comparés aux budgets chinois et américains, c'est quand même pas grand-chose. Et pourtant, on arrive, sur certains domaines, à tirer notre épingle du jeu. Jean-Christophe Noël.
Mais je crois qu'il y a de la qualité en Europe. Il n'y a qu'à voir les chercheurs les plus connus. Vous avez par exemple Yann Lequin, qui est français. Simplement, il travaille de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, c'est ça. Il travaille
c'est le problème voilà, est là-bas. Ça. C'est-à-dire que si vous voulez l'écosystème pour justement favoriser et faire lever tout ça, il est de l'autre côté de l'Atlantique. L'Europe, elle a un gros avantage, c'est que si elle est unie, elle a un nombre de données très importantes qui pourraient, si elles étaient utilisées, en tout cas, justement, aider à favoriser une intelligence artificielle avec des résultats qui seraient très, 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 très bons. Mais chacun part en ordre dispersé, comme disait Charles. C'est-à-dire, la France a été une des premières, je dirais, à dégainer, avec donc le rapport Villani, et puis donc quelque chose qui est décliné dans différents ministères, et vraiment avec une vraie volonté de prévaloir dans tous ces domaines. Du coup, les Allemands ont commencé à produire leur stratégie, etc. Mais on sent bien qu'au moment où il faut aller ensemble pour avoir une vision commune, ça devient plus dur. Et puis, il y aura toujours ce problème, justement, des données. Jusqu'où on va pour partager les données? Parce que c'est sensible, une donnée. Regardez une donnée médicale. Si vous la partagez et que d'un coup, vous avez des mutuelles chinoises qui viennent, et bah, qui vous proposent des produits qui sont moins chers que ceux de la sécurité sociale française, et que vous décidez de choisir justement ces mutuelles chinoises, bah, c'en est fini de la sécurité sociale, et c'est fini d'un certain modèle français aussi. Donc on voit bien que même des données, par exemple, sur votre santé, etc., peuvent être très stratégiques à terme, en tout cas avoir des conséquences sociales énormes.
Juliette Faure.
Oui, c'est-à-dire que je pense effectivement que la première étape déjà pour maintenir la capacité de l'Union européenne à administrer ses propres données, ça serait finalement à terme de créer nos propres géants du numérique avec une gestion par les pays de l'Union européenne de leurs propres données. Mais sur la question de quand même de la faiblesse, de caractère un peu intermédiaire de l'Union européenne, il faut quand même rappeler la dernière initiative par le commissaire Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, d'essayer de créer des règles de sécurité à mettre en œuvre pour se protéger contre les risques liés au déploiement de la nouvelle technologie 5G, où là, a priori, on voit de la part de tous les pays européens une volonté de coopérer et de signer les mêmes règles de sécurité. Donc c'est quand même un développement positif.
Charles Thibault.
Oui, non, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on arrive à se mettre d'accord sur des points défensifs. Et encore, ça reste. Mais pour essayer d'avoir une stratégie commune offensive, disons, avec cette terre, une vraie politique industrielle qui puisse véritablement aboutir à quelque chose, notre problème, c'est que nous suivons un paradigme libre-échangiste, par exemple, et le problème, c'est pas le libre-échange en tant que tel, c'est que nous sommes les seuls à avoir ce paradigme-là. Ce qui fait que d'un côté les Chinois, de l'autre côté les États-Unis, eux sont protectionnistes, et ils protègent leurs entreprises, ils les font fructifier, etc. Et nous, dès que nous avons des petites entreprises qui commencent à pousser, émerger, qui ont la capacité finalement à terme de devenir des équivalents de Google, etc., ils se font racheter. Et nous n'avons aucun moyen juridique d'empêcher cela. Fight for your right to be yourself, my friend. Reclaim the street again and again.
Merci beaucoup à tous nos invités, Jean-Christophe Noël, Juliette Faure, Charles Thibault d'avoir été avec nous. Un grand merci, j'ai cité durant cette émission un certain nombre de rapports, d'articles, on mettra évidemment tout cela sur la page de Culture Monde pour que les auditeurs puissent se plonger dans vos écrits. Merci infiniment à tous les trois, 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Et on reste justement en Europe, on en parlait à l'instant. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et cette fois, c'est le PPE, le Parti Populaire Européen, qui est au pied du mur, Brice.
Mais oui, parce que ce grand parti du centre-droit au Parlement européen va devoir décider du sort de l'une de ses composantes les plus turbulentes et improbables, le Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Le deadline est fixé au prochain mois d'avril parce que c'est la date à laquelle aura lieu le prochain congrès du PPE. Mais au-delà du sort même du parti d'Orban, est-ce que ça sera son maintien au sein du PPE ou son expulsion, la décision prise sera lourde de sens. Car ce qui est en cause, c'est à la fois l'identité de la droite européenne et l'état des rapports entre l'Ouest et l'Est européen. Rappel, En septembre 2018, le Parlement européen a voté l'application à la Hongrie de l'article 7 du traité, qui vise à mettre en garde un État membre sur les menaces que fait peser son gouvernement sur les libertés publiques. La Pologne ultra-conservatrice était déjà sous le coup d'une telle mesure. Le gouvernement en question se voit ainsi averti qu'en cas de poursuite de sa politique, il risque d'être privé de ses droits de vote au Conseil européen. Prenant acte de ce coup de semonce, le PPE a décidé de suspendre les eurodéputés du Fidesz de son groupe parlementaire. Une manière de donner à Orban une dernière chance de corriger la trajectoire de plus en plus autoritaire de son gouvernement. Mais la semaine dernière, le Parlement européen a voté une nouvelle résolution dénonçant l'aggravation des atteintes à la liberté d'expression et à l'indépendance de la justice en Hongrie et en Pologne. Les eurodéputés ont mis en cause le Conseil européen, l'accusant, je cite, « d'incapacité à utiliser efficacement l'article 7 contre deux États membres qui continuent de porter atteinte à l'intégrité des valeurs européennes communes ». Un vote massif, dépourvu d'ambiguïté, 446 voix pour, 178 contre, 41 abstentions, détail révélateur. Les eurodéputés non-hongrois appartenant au PPE ont voté la résolution en question par 99 voix pour contre 24. Et on remarquera en passant que les eurodéputés PPE provenant des Républicains français et de Forza Italia, le parti de Berlusconi, ont soutenu les élus d'Orban. Ceux qui ont voté contre nous, malgré leur appartenance au PPE, ont prouvé que notre alliance ne signifie rien pour eux et qu'il leur importe davantage de satisfaire la pression libérale que la loi et la justice. Voilà ce qu'a dit Viktor Orban en s'emportant contre le vote de cette résolution. Et le Premier ministre hongrois de menacer, je cite, « Si le PPE ne défend pas la Hongrie, alors nous devrons lancer un nouveau mouvement européen chrétien-démocrate ». Quelque chose de nouveau, mais à droite, pour contrebalancer Macron et son nouveau mouvement politique. Alors, comme l'écrit Jacques Rupnik sur le site Telos, Orban reproche aux grands partis du centre-droit européen, donc le PPE, de trop subir l'attraction du nouveau parti libéral et centriste, Renew, réputé macronien. Il juge aussi l'influence centriste de la CDU sur le PPE excessive et il voudrait monter un front commun des droites centre-européennes susceptibles de peser sur l'équilibre politique interne en Europe. À l'ouest, relève Rupnik, Orban louche aussi sur la droite autrichienne, l'EVP, et sur la CSU bavaroise. Il rêve d'un axe Budapest-Vienne-Munich, celui d'une droite authentique et décomplexée. Marc Lazare, écrit Rupnik, considère que c'est l'Italie qui est le laboratoire politique de l'Europe, mais c'est l'Autriche, à la charnière entre l'Est et l'Ouest, qui est en train de devenir ce laboratoire politique, car elle est en phase avec Orban et les pays d'Europe centrale sur la question migratoire, mais elle garde ses distances avec leur euroscepticisme.
Donc Brice, Orban tente une double opération. D'un côté, prendre la tête d'une coalition des États membres d'Europe centrale, il vient de se voir adresser un refus poli du président roumain, et de l'autre, faire peser sur la droite européenne la menace de créer son propre mouvement qu'il qualifie d'authentiquement chrétien-démocrate.
Oui, mais le politologue allemand Jan Werner Müller vient de lui répondre dans un article qui vient de paraître sur le site Project Syndicate. Orban, prétend Müller, dit qu'il est le seul vrai défenseur de la démocratie chrétienne en Europe et que ses critiques au sein du PPE sont, je cite, « vendues au libéralisme ». Mais Orban connaît mal l'histoire de la démocratie chrétienne. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les partis qu'elle inspirait, chrétiens-démocrates, qui ont bâti les États-providence dans des pays comme la France et comme l'Italie. Ils l'ont fait pour renforcer les valeurs familiales et en s'opposant, c'est vrai, à un libéralisme qu'ils jugeaient trop centré sur l'individu et coupable de matérialisme. Mais si ces leaders ont également été aux côtés des sociaux-démocrates pour lancer l'intégration européenne, ce n'est pas par hasard. Cela vient de la méfiance instinctive des démocrates chrétiens envers un souverainisme qu'ils conçoivent comme une forme d'hubris national. Le christianisme dont se réclame Orban, selon Müller, renvoie moins à des croyances partagées qu'à une forme d'appartenance tribale à une communauté sur la défensive. Et il est étranger à l'authentique tradition démocrate chrétienne. En définitive, conclut Müller, la guerre culturelle qu'Orban et ses semblables essaient de lancer en Europe est surtout une manière de distraire l'attention tant sur le plan intérieur qu'international, sur les systèmes autocratiques et kleptocratiques qu'ils ont créés chez eux.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve lundi, Brice, demain chronique sur le site de France Culture.